16h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle semaine à mes côtés pour partager vos expériences de vie. Oui. Ombline, bonjour. Comment allez-vous ma chère?
Ça va bien, bonjour à tous.
Ici, comme vous le savez, c'est que votre vie, hein, donc votre vie dont on parle, de vos parcours, de vos joies, de vos peines. Alors, on va parler de la vocation aujourd'hui. Je serai archéologue, je ne me vois pas autre chose que médecin. Pour certains, le travail est une vocation, c'est viscéral. Ils sont pompiers, prêtres ou artistes, et pour eux, c'était ça et rien d'autre. On est prédestiné à faire tel ou tel métier. Peut-on parler d'une passion quand on évoque une vocation? Dans ces vies toutes tracées par une sorte d'appel intérieur, hein, ce qui compte, c'est d'arriver à ses fins et d'exercer le métier tant convoité. Mais est-on prêt à faire tous les sacrifices? 8 ans minimum d'études pour post-bac, hein, pour être médecin, des contrats précaires pour devenir artiste, intermittent du spectacle. Jusqu'où la puissance de la vocation peut-elle nous mener? Eh bien, on va en parler dans cette émission pendant une heure sur Europe 1. Comment influence-t-elle une vie, cette vocation? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Oui, vous nous racontez votre expérience de vie au 39-21, le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Pour nous écrire, il y a le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et puis Twitter, hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Fred sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Fred.
Bonjour.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 22 ans et j'appelle depuis l'enceinte même de la faculté de médecine de Nancy.
D'accord. Alors, faculté de médecine de Nancy, où vous êtes aujourd'hui en troisième année. Devenir médecin, c'est quelque chose qui vous a toujours animé? Vous ne vous voyez pas faire autre chose?
Non, peut-être pas. Quand j'étais petit, comme tout le monde, j'avais une semaine une envie, une autre semaine une autre. Mais depuis que j'ai probablement une grosse dizaine d'années, depuis mes années collège, oui, c'est devenu une idée fixe, oui.
D'accord. Et cette idée fixe, elle vous est venue toute seule ou vos parents vous ont influencé un peu?
Alors, mes parents m'ont pas du tout influencé, du tout. Mais elle m'est pas venue toute seule pour autant. Elle m'est venue principalement de la rencontre avec un médecin un jour, de la rencontre avec un cardiologue un jour où j'ai eu besoin de consulter pour un examen complètement banal. Le voyant exercer, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Mmh. Et c'était un collègue de ma mère qui travaillait déjà à l'hôpital, enfin qui travaille d'ailleurs toujours à l'hôpital, et il est devenu mon mentor. Depuis, il est malheureusement décédé, mais l'idée est restée vraiment depuis que j'étais petit jusqu'à aujourd'hui.
Mmh. Alors c'est là qu'est née votre vocation, alors une vocation qui demande beaucoup de rigueur et puis on va le voir aussi pas mal de financement. Qui dit études de médecine dit PACES, hein, cette première année qui semble très difficile, à l'image du film Première année de Thomas Lilti.
C'est une année difficile. Pour ceux qui n'ont pas eu de mention au bac S, vos chances sont de 2%.
On commence le matin par une matière difficile, puis pause déj, 40 minutes. Une matière facile l'après-midi jusqu'à 17h. Pause goûter, 20 minutes. On enchaîne avec 2 heures d'une matière difficile.
Et le soir, on fait des annales jusqu'à ce qu'on soit cuit. À ce rythme-là, c'est jouable.
T'en dis quoi ?
Alors, cette année qu'on nomme PACES, c'est une année qui demande beaucoup de rigueur, Fred, et beaucoup d'investissement. Pourtant, vous n'avez pas toujours été un grand travailleur. Ça n'a pas été trop dur pour vous de vous mettre dans le bain?
Ah si, 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 ça a été très très compliqué. Le film de Thomas Lilti a cet avantage d'être très très vrai. Et ce qu'on voit dans le film, ce qu'on entend dans le film, c'est vrai. Ça nécessite vraiment de la rigueur. Mmh. Malheureusement, arrivé en post-bac, je n'avais pas cette rigueur. J'ai eu mon bac avec une mention très bien, mais sans jamais avoir réellement travaillé. En tout cas, pas plus que nécessaire pour valider sans grande difficulté mes contrôles. Donc oui, ça a été une expérience assez brutale la première année, ce qui a d'ailleurs pas mal expliqué le fait que je l'ai fait en deux années. Je l'ai doublé parce que je ne pouvais pas avoir médecine avec le travail que j'avais fourni la première fois.
Alors, vous avez perdu 8 kilos hein, durant cette première année. Vous avez contracté un prêt étudiant de 35 000 euros. On voit combien c'est un investissement psychologique, physique et aussi financier. C'est cette vocation qui vous a amené à être aujourd'hui en troisième année. Comment la définiriez-vous, cette vocation ?
Alors, comment je la définirais ? C'est compliqué, c'est assez viscéral, je dirais. Disons qu'on a envie de beaucoup de choses, on a envie de... Oui, bah oui, déjà, on a envie d'aider, on a envie de sauver, on a envie d'avoir, ça paraît un peu bête, hein, mais un statut social. Aujourd'hui, le médecin, ça représente toujours quelque chose dans la société. Et puis, je pense que quand on a une réelle envie, on voit difficilement ce qu'on pourrait faire d'autre, et c'était mon cas. Donc, je la définirais vraiment comme quelque chose de viscéral qui nous colle.
Quelque chose de viscéral qui vous colle et qui vous a mené jusqu'à la troisième année aujourd'hui dans cette faculté de médecine de Nancy. Et bien, je vous souhaite bon courage pour les cinq années qui vous restent, Fred. Et je vous remercie au passage pour votre témoignage et votre appel. Bon courage pour la suite de vos études. Dans quelques instants, nous accueillerons Jessica. Elle est éducatrice spécialisée. Son travail, c'est accompagner les jeunes en difficulté. Un travail qui demande de donner beaucoup de soi-même aux autres.
Europe 1. Plus qu'un travail, une véritable vocation. Vous nous racontez votre histoire au 39-21. Vous nous racontez également, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous composez chaque après-midi le 39-21. Vous échangez avec Olivier Delacroix à propos de votre vocation. Exercez-vous un métier passion? Vos messages également via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et dans la première partie de cette émission, nous avions Fred qui nous expliquait que la vocation, hein, sa vocation avait eu raison de tout l'investissement personnel et financier qu'il avait dû tenir pour ses études de médecine, dans lesquelles il est aujourd'hui en troisième année. Il en reste encore cinq, donc il faut que cette vocation soit très forte pour tenir le coup. On va parler de cette vocation maintenant avec Jessica, que l'on accueille sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Jessica.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Donc j'ai 34 ans, j'appelle de Strasbourg.
D'accord. Alors, vous, Jessica, vous avez toujours voulu travailler dans le social. Pourquoi ?
Pourquoi ? C'est une vocation qui remonte quand même à pas mal de temps. J'ai toujours travaillé finalement, que ce soit dans le bénévolat, un peu d'humanitaire auprès des personnes. Et l'idée, c'était de les accompagner au mieux, vers un mieux.
D'accord. Et ça, en fait, vous le partagez déjà étant jeune, en étant dans des associations où vous avez vu vos parents eux aussi travailler un petit peu, partager, regarder l'autre ?
Oui, on a tous, enfin dans ma famille, on a toujours suivi les Restos du Cœur. On s'est été rapidement bénévole au Restos du Cœur à la fin de mon adolescence. Et assez naturellement, j'ai travaillé dans les quartiers, puis auprès des femmes, pour les soutenir dans les écrits, dans les RMI, tout ce genre de choses.
D'accord. Alors cela fait 9 ans hein, que vous êtes éducatrice spécialisée. En quoi consiste ce métier exactement aujourd'hui ?
Aujourd'hui, en fait, j'accompagne des familles dont les enfants, on a décidé qu'ils étaient un petit peu en danger au domicile.
Oui.
Donc j'accompagne les familles et les enfants notamment à leur permettre de rester au domicile et finalement de travailler sur cette notion de danger pour que dans la famille, ça se passe au mieux.
D'accord. Alors moi, je connais pas mal d'éducateurs SPE, aussi bien que des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Et ce sont tout de même des secteurs où on demande beaucoup d'énergie hein, psychique. Psychologique, vous la trouvez où ? C'est cette vocation qui vous porte à l'avoir ?
L'avantage qu'on a ici aux apprentis d'auteuil, c'est qu'on travaille beaucoup en équipe. Donc finalement, c'est l'équipe qui va nous permettre de garder un petit peu ses ressources, de travailler sur les choses qui nous mettent en difficulté ou qui nous questionnent et de jamais être seul. Mmh. Donc finalement, c'est le fait de ne pas être seul qui nous permet de faire face à tout ça.
Et de se sentir utile, je pense, non ?
Complètement. Mmh. Complètement, oui, c'est vrai qu'on accompagne des familles, donc on a aussi une forme de reconnaissance de la part de ces familles, complètement. Mmh.
Est-ce que cette vocation, vous diriez qu'elle vous a apporté un sens, elle a donné du sens à votre vie ?
Oui, complètement, oui. Moi, mon métier, je le vis au quotidien, c'est ce qui me porte aussi, donc forcément, ça a impacté ma façon de voir la vie complètement. Oui. Mmh.
Vous dites que l'on ne fait pas ce métier par hasard. Qu'entendez-vous par là, Jessica ?
Ah ben on peut pas s'inventer éducateur du jour au lendemain. Je pense qu'il faut il faut avoir envie d'aider son prochain, il faut avoir envie de les accompagner dans les bons moments comme les mauvais moments. Il faut savoir pourquoi on se lève le matin aussi. Donc forcément c'est pas anodin ce genre de métier parce qu'on donne beaucoup de temps, on donne beaucoup d'énergie, on en reçoit aussi à l'inverse quoi.
Et c'est ça la vocation selon vous, faire un métier qui s'impose finalement à nous?
Oui, oui, je pense, oui, complètement. C'est faire un métier dans lequel on est heureux de le faire et on se sent utile. Ouais.
Mmh. Et Dieu sait si notre société a besoin de gens comme vous qui représentent un des rouages essentiels pour que tout ça évolue et aille bien, parce que pas mal de familles sont en souffrance dans les quartiers encore. Donc merci beaucoup et bravo pour votre témoignage. Dans un instant, nous allons accueillir Marjorie Lombard. Elle est l'auteur de l'ouvrage « Dessine-toi une carrière, 5 étapes pour retrouver sa voie » aux éditions Duno. Et elle est experte en reconversion professionnelle.
Europe 1. Quand on travaillait bien plus qu'un simple emploi, venez témoigner à l'antenne d'Europe 1. Venez nous dire à quoi vous étiez destiné. Le 39-21, vous pouvez aussi nous écrire, poser vos questions via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39-21, pour nous appeler, nous dire quelle a été votre vocation. Exercez-vous le métier de vos rêves. On vous écoute jusqu'à 16h sur Europe 1.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Marjorie Lombard, auteure de l'ouvrage « Dessine-toi une carrière, 5 étapes pour retrouver sa voie » aux éditions Deno, et elle est experte aussi en reconversion professionnelle. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et
bonjour.
Tous.
Bonjour. Comment définir la vocation professionnelle? Est-ce que vous parleriez d'une sorte de foi intérieure?
On peut parler d'une foi intérieure, en effet. Si on se rappelle de l'étymologie, la vocation c'est un appel. En latin, c'est vocare, l'appel. Donc c'est vraiment un appel intérieur que l'on va ressentir, un élan à faire quelque chose, une activité professionnelle de l'ordre d'une mission. Mmh. Donc la foi, cette foi intérieure, peut être tout à fait en lien avec cette vocation, cet appel intense.
Et cet appel, où puise-t-il c'est son origine, à votre avis?
C'est une très bonne question. On n'a pas ces réponses-là. Mais moi, avec la pratique que j'ai, parce que c'est vraiment la question de la vocation qui m'anime dans ma profession, et aider les personnes à se reconnecter à leur vocation, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer d'où vient cette vocation. Il y a quelque chose d'inné. Il y a une certaine composante qui est innée, qui va faire appel à peut-être des talents avec lesquels on est arrivé sur Terre. Des choses, des aptitudes que l'on sait faire naturellement, sans bien savoir pourquoi. Peut-être que ça arrive de mémoire, peut-être que ça arrive de lignées plus anciennes, on ne sait pas. Mais en tous les cas, qui sont là à l'état latent, et dès l'enfance. C'est ce qui est intéressant avec la vocation. Si on observe de jeunes enfants, jusque vers 6-7 ans, avant que l'âge de raison arrive, on peut tout à fait détecter quels sont leurs talents. Et ces talents-là sont en lien étroit avec la vocation. Aristote, à l'époque, avait cette phrase qui m'inspire beaucoup. Là où vos talents rencontrent les besoins du monde, là se trouve votre vocation. Donc, depuis très longtemps, on a détecté que des personnes peuvent naturellement bien faire certaines choses, et je pense que ces talents sont une clé, une porte d'entrée vers l'émergence de la vocation.
Alors, quand un enfant exprime très tôt une vocation, je suppose qu'il faut vraiment bien la prendre en compte.
Si on veut aider l'enfant à aller vers ces zones de facilité, oui, en tant que parent, en tant qu'éducateur, surtout dans notre époque actuelle où le marché du travail a énormément changé et est très incertain, aujourd'hui on sait qu'on n'aura pas une carrière linéaire, on n'aura pas une voie toute tracée qui va rester la même,
oui.
Et on va être confronté à des problématiques différentes, chômage, changement de statut et autres. Donc l'inconnu face au marché du travail et le climat de notre époque. Donc il n'y a plus de raison de dire à un enfant « fais un bac S, fais une voie qui va t'ouvrir toutes les portes », ça n'a plus de sens. Partant de là, en tant que parent et éducateur, observez là vers où va naturellement l'enfant, quels sont ses intérêts, quelles sont ses occupations, qu'est-ce qu'il dit vers quoi il est naturellement porté peut être vraiment aidant pour l'épanouissement de l'enfant et du futur adulte qu'il va devenir.
Alors, certains s'épuisent en tentant d'atteindre leur vocation professionnelle. Faut-il parfois abandonner, renoncer, quitte à se réinventer, à votre avis ?
Si on a atteint le point de non-retour, oui, il faut s'arrêter. Mmh. Il faut s'arrêter et on le sait aujourd'hui, ça fait partie de la vie professionnelle. On réinvente sa voie, on bifurque, on switch, on transitionne.
Des vocations...
Néanmoins, de trajectoire professionnelle. Si on a atteint le point de non-retour et qu'on s'est épuisé, parfois il peut y avoir presque un dégoût de sa vocation parce qu'on est allé trop loin. Et on est épuisé, peut-être physiquement, mentalement, émotionnellement. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que si on a la chance d'être conscient de sa vocation, parce que tout le monde ne l'est pas, mais si on a la chance d'être conscient de sa vocation, c'est plutôt une histoire d'équilibrage, d'équilibre. On a vu que cette vocation pouvait être synonyme d'une foi intérieure intense. Fred parlait de viscéral. Cette envie d'accompagner au risque de s'oublier. Donc c'est plutôt là que se trouve le point de vigilance. Aller vers sa vocation, mettre tout en œuvre pour pouvoir la déployer, tout en s'écoutant, tout en ne s'oubliant pas dans l'équation pour faire attention aux signaux faibles d'épuisement, pour ne pas consacrer toute son énergie à sa vocation, parce que les carrières aujourd'hui sont longues. Donc on est plus dans un marathon, une course de fond, qu'un sprint, donc s'économiser ses ressources pour pouvoir durer
et sans doute apprendre à se connaître soi-même, bien se connecter à soi-même pour être certain que cette vocation pourra déboucher sur quelque chose. On va continuer à parler de cette vocation avec vous dans quelques instants, Marjorie Lombard. En fait, on parlera aussi de savoir si des vocations peuvent naître tardivement. Je rappelle que vous êtes auteur de l'ouvrage « Dessine-toi une carrière, 5 étapes pour retrouver sa voie » disponible aux éditions Dunod et que vous êtes experte en reconversion professionnelle. Dans quelques instants, nous serons avec Cyprien. À 27 ans, il est enfin allé au bout de sa vocation, devenir frère dans une communauté religieuse.
Et le message de François au 39-21, son témoignage. François a 33 ans, j'ai fait le choix très tôt d'être militaire, de m'engager dans l'armée malgré la réticence et l'inquiétude de mes parents. Je ne vois pas autant ma famille que je le souhaiterais, je suis souvent absent. Et même si les sacrifices sont nombreux, surtout pour aujourd'hui, pour ma compagne et mon fils, je ne me vois pas exercer un autre métier.
Europe 1.
Vous étiez prédestiné à exercer votre métier, une passion qui vous a guidé. Vous avez choisi cette voie professionnelle. Venez en discuter avec Olivier Delacroix, nous raconter votre expérience au 39-21. Chanteur, musicien, mais aussi pompier, étiez-vous prédestiné à exercer votre métier? Vous nous racontez au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Cyprien. Bonjour Cyprien, pardon, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier, merci beaucoup.
Bonjour. C'est gentil. Quel âge avez-vous? D'où nous appelez-vous, Cyprien?
Alors, j'ai 27 ans et je vous appelle de Vienne, en Autriche.
D'accord. Où vous, vous êtes où exactement à Vienne?
Alors, j'habite dans un monastère, puisqu'en fait, je suis religieux.
Oui.
Donc, je vous appelle depuis ce qu'on appelle ma cellule.
D'accord. Justement, on va parler de cette vocation qui vous est venue. Je crois que vous venez d'une famille croyante, mais pas vraiment pratiquante. Hein. La religion, voilà. Par contre, vous a toujours intrigué. Dans quel sens, en fait?
Alors, je viens d'une famille croyante, peu pratiquante, mais quand même, avec mon papa, j'allais régulièrement à la messe le dimanche quand j'étais petit.
Oui.
Pour être honnête, je crois que c'était plus pour laisser ma maman tranquille qu'autre chose. mais non, ça m'a toujours intrigué, parce qu'on parlait de valeurs, parce qu'il y avait aussi une ambiance particulière dans l'église, et puis parce que c'était... Le dimanche, par exemple, je rencontrais des gens que je ne voyais jamais en dehors de ce temps-là, mais il y avait déjà un esprit de famille avec ces personnes. Ça me touchait déjà quand j'étais petit.
Alors, au tout début, vous me parliez, ça allait très bien, puis là, je ne sais pas, vous avez bougé un petit truc, essayez de revenir dans votre position originelle. En fait, pendant votre adolescence, vous oscillez entre deux vies différentes, hein, celle d'un adolescent plutôt fêtard, qui se cherche, à celle d'un croyant qui pratique, qui est chez les scouts notamment. Que recherchiez-vous en fait à cette époque entre ces deux existences-là?
je crois qu'il y avait un point commun entre les deux, c'était une notion d'engagement et puis de, d'engagement total, d'aller jusqu'au bout des, de ce que je faisais.
Oui.
Et voilà, j'avais besoin d'authenticité, j'avais besoin de trouver aussi mes limites, hein, je pense, comme, comme tout adolescent. Et du coup, un peu tiraillé entre ces, ces deux mondes, entre ces, voilà, ces, ces deux aspirations, celle du monde de la nuit, du monde de la fête, du monde aussi des bêtises et de la drogue.
Oui.
Et puis en même temps, je me sentais bien aussi à des endroits où on me proposait de m'engager, où on me proposait voilà, de pouvoir me réaliser. Et entre autres, chez les scouts, ça m'a toujours été bien proposé chez les scouts.
Mmh.
Et ça m'a touché aussi. Ça.
Et chez les scouts, on sait qu'il y a, il y a, voilà, il y a cette notion de partage aussi. On trouve, beaucoup trouvent un sens à leur vie, hein, au cœur des scouts. Vous, c'est vers 19 ans, hein, Cyprien, que voilà, votre vocation s'est imposée vraiment à vous. Quelles ont été les premières étapes pour devenir frère ?
Alors, ça faisait déjà plusieurs années, en réalité, avant mes 19 ans, que voilà, j'y pensais que j'étais tiraillé, mais que vraiment cette idée-là se faisait présente. Et puis à 19 ans, j'ai été... comme fatigué un petit peu de ce tiraillement entre mes deux vies et puis surtout oui. De voir que je faisais du mal aux gens que j'aimais, à moi-même et puis à ma famille en faisant toutes les erreurs que j'ai pu faire dans mon adolescence et ma jeunesse. Et du coup, il y a un moment où moi, personnellement, j'ai pris la décision de me dire ben voilà, il y a cette vie de religieux, de frère, alors je ne savais pas trop ce que c'était à l'époque, hein, je voyais ça un peu de loin quand même, qui m'intéresse. Du coup, je me suis dit, bah voilà, on va essayer. Et je me suis rapproché à ce moment-là de religieux dont j'avais été l'élève dans une école
catholique
dans la région d'Annecy. Voilà.
Ouais.
Et je leur ai déjà exposé un petit peu ma situation. Ils m'ont accompagné. Et puis, je leur ai dit, bah voilà, j'aimerais bien essayer. Et donc, il m'a été proposé de venir regarder, de venir vivre un petit peu la vie en communauté les week-ends, par exemple.
Ouais.
Et en fait, assez vite, j'ai pris la décision de venir complètement et d'essayer vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quitte à ce que ça marche pas. Mais voilà, je me suis dit que le meilleur moyen d'essayer, c'était ça. Donc, ça a été la première étape. Ça a été de rentrer en communauté, de faire cette découverte. Et puis après, au sein de la communauté, il y a différentes étapes de formation.
Alors, bien évidemment, on va pas parler de toutes les étapes, hein, Cyprien. Ce qui était très intéressant, c'est de voir à quel moment, quel déclic s'est fait en vous. Vous restez en ligne avec nous. On va continuer à parler de votre vocation et en même temps de celle de Yann, qui lui a suivi aussi une autre vocation, une passion qui est devenue une vocation au fil du temps, celle de devenir musicien et professeur de musique. Vous restez en ligne avec nous, Cyprien. On continue à vous parler dans quelques instants.
Europe 1. Plus qu'un travail, une vocation. Très tôt, vous avez trouvé votre voie. Venez échanger avec nous le 3921 pour nous appeler, pour témoigner. Vous retrouvez Olivier Delacroix tout de suite. Un jour, vous avez décidé que vous seriez médecin, journaliste, soigneur dans un zoo. Est-ce que c'est votre passion qui vous a guidé à exercer ce métier précisément? Qu'avez-vous sacrifié pour cela? Vous nous raconterez votre histoire au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours avec Cyprien qui, aux alentours de ses 19 ans, après avoir mené une vie d'adolescent fêtard et puis aussi celle d'un adolescent qui aimait les scouts, qui partageait ses valeurs, qui avait connu l'église aussi avec son père, avait fini par se tourner vers l'église et devenir frère. J'aimerais savoir une chose, Cyprien, avant d'accueillir notre ami Yann qui lui est musicien et professeur de musique. Comment a réagi votre entourage face à cette annonce? Parce que la voie que vous avez choisie, c'est d'aider les autres, c'est de dédier votre vie à l'Église. C'est un chemin que vous avez choisi, mais votre entourage a dû être surpris, non?
Alors, surpris un petit peu de la part de mes amis, surtout.
Oui.
Ma famille, ça a été différent. Ça a été d'abord un peu de l'inquiétude, plus que de la surprise.
Oui.
C'est inquiet que ça soit un choix... complètement libre, que je prenne bien ma décision. Et en fait, ce qui a aidé, c'est aussi que je puisse partager avec eux bah voilà, ce qu'il y avait de beau, ce qui m'encourageait dans cette voie, mais aussi les difficultés. Et de voir qu'il y avait des difficultés et que j'étais prêt à les affronter, ça a rassuré ma famille. Et ça, ça a été les premières réactions. Et de façon générale, ça a toujours été très, très bien reçu, que ce soit par les connaissances, les amis et la famille. Et beaucoup de questions, en fait.
Oui, beaucoup de questions, parce que vous parlez des difficultés que vous alliez affronter, Mais je rappelle que la famille aussi hein, se trouve aussi un peu privée de vous à un moment, aussi qu'elle ne vous voit plus comme avant.
Complètement. Et la famille ose rarement le dire clairement, mais c'est toujours une souffrance pour elle. Mais moi, elle m'en a jamais fait part de façon négative. Et au contraire, j'ai toujours été très, très bien accompagné et soutenu par ma famille. Et aujourd'hui, ça, c'est une chance parce que ce n'est pas tous les religieux et toutes les religieuses qui ont ce soutien-là.
Oui, cette chance. Ouais. En tout cas, on peut parler dans le choix que vous avez fait de vocation et d'un entourage donc, qui vous a porté. On va parler de cette vocation avec Yann, que l'on accueille maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Yann.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors, j'ai 34 ans et là, je vous appelle de Maison-Laffitte.
D'accord.
Dans les Yvelines.
D'accord. Alors, vous, Yann, au lycée, vous avez eu un déclic parce que cette guitare qui traînait dans votre chambre depuis des années, eh bien, il fallait bien en faire quelque chose. Vous vous êtes enfermé pendant des mois et puis vous vous êtes mis à apprendre, à en jouer. Hein. Vous êtes un autodidacte.
Tout à fait.
On peut parler de vocation puisque vous êtes allé au bout de vos rêves, puisqu'aujourd'hui, vous êtes professeur de musique. Vous avez créé, on va le voir, une école de musique hein, à Maison-Laffitte.
Tout à fait. Mais
justement, on parlait de l'entourage de Cyprien, parce que j'ai été moi-même à un moment musicien, mais c'est vrai que même si c'était une vocation, j'étais toujours un peu pragmatique. Je me disais, bon, tu fais de la musique, mais à côté, il faut que tu gardes un truc qui va te faire manger. Vous êtes lancé à corps perdu dans la musique. Comment ça a été jugé par votre famille? Parce que je suppose que c'est compliqué comme choix aussi.
C'est très compliqué. Alors après, à corps perdu, je vais mettre un petit post-scriptum là-dessus, c'est que ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire que la musique, ça a toujours été présent dans toute ma vie, à partir effectivement, donc, comme vous l'avez dit, au lycée. Mais à partir du moment où j'ai commencé à avoir des groupes de musique, pour moi, en fait, la musique, c'était une passion, mais qui ne me rapporterait pas d'argent.
D'accord.
C'était en nappe de fond. Et mon entourage voyait ça d'un bon œil. Mais de toute façon, ma famille m'a toujours supporté vraiment à fond. J'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Donc, pour moi, ça se passait vraiment bien. J'ai fait des études de comédien. Et en fait, j'ai commencé à vouloir gagner ma vie en donnant des cours de guitare. Parce que, en fait, quand j'étais adolescent, j'en donnais des cours à des amis et ça se passait très bien.
Oui.
Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Je vais essayer. Et puis... voilà, ça me rapportait de l'argent. Finalement, la musique m'a rapporté de l'argent très rapidement, en fait.
Mmh. Et d'un point de vue artistique, en fait, vous avez monté, vous faites que vous ne donnez que des cours de musique ou vous produisez un peu? Est-ce que vous avez aussi exploré le côté compo, chanteur?
Tout à fait. Disons que ça va de pair. Moi, très vite, j'ai eu l'envie de composer quand j'ai appris à faire de la guitare. Donc, je composais. Et donc, voilà, j'ai eu mon premier groupe, j'avais 17 ans. Et donc, pour moi, ouais, la notion de groupe de musique est essentielle à mon épanouissement personnel. J'ai vraiment besoin de faire de la musique avec des potes et de créer. Et donc, du coup, là, actuellement, même si j'ai une école de musique, j'ai deux groupes de musique en parallèle. Sarre et Parlor qui évoluent bien comme il faut. Donc, à ce niveau-là, c'est très chouette aussi, quoi.
Quel sacrifice vous avez dû faire pour aller au bout de cette vocation?
C'est difficile d'y répondre. Des sacrifices, je ne sais pas si on peut dire que j'ai fait des sacrifices. On va dire que quand on choisit d'aller au bout d'un de ses rêves, on va dire qu'il y a une période de vache maigre où j'ai mangé que des pâtes.
C'est ce que craint la famille, hein, généralement. C'est ce que craint
exactement
la famille.
Mais c'est le problème de l'argent dans notre société, en fait. Là, bon, je fais une parenthèse, mais c'est toujours, travailler pour gagner de l'argent. Alors que moi, en fait, j'ai pris le problème autrement. Moi, je me suis dit travailler pour m'épanouir personnellement, pour mon plaisir, en fait.
Ouais. Je pense que vous avez pris le problème par le bon bout, d'ailleurs. C'est comme ça que la vocation s'épanouit.
Je pense aussi. Et donc, du coup, naturellement, je suis allé dans cette direction-là, même quitte à manger des pâtes pendant plusieurs années. Et puis voilà, quoi.
Bon, écoutez, vous restez avec nous en ligne. On est toujours avec Marjorie Lombard. Et dans la dernière partie de cette émission, on va pouvoir échanger avec Marjorie Lombard et puis Cyprien, qui est toujours en ligne avec nous, de Vienne, en direct de Vienne, de sa cellule. Même si cela paraît très austère, il se passe beaucoup de choses dans cette cellule.
Il est
religieux, oui, pour ceux qui nous prennent en route, bien évidemment. Et on va continuer de parler de cette vocation. Vous restez en ligne avec nous.
Europe 1.
Comme Yann, comme Cyprien, vous avez suivi votre vocation, vous témoignez au 39-21, 50 centimes la minute. Quelle passion vous a guidé? On vous lit sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous exercez le métier de vos rêves. Quel a été le pouvoir de votre vocation? Vous échangez avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours avec Cyprien, qui a choisi la vocation de l'église et est devenu frère. Il nous appelle de Vienne. Il est en ligne avec nous aujourd'hui, à l'âge de 19 ans, donc il a choisi l'église. Nous sommes toujours avec Yann, qui lui... est allé au bout de cette vocation de musicien et qui a suivi sa passion. Et toujours avec Marjorie Lombard, qui est experte en reconversion professionnelle et auteure du livre « Dessine-toi une carrière » aux éditions Deneau. Marjorie Lombard, on a écouté Cyprien, on a écouté Yann. On peut parler là de deux vocations qui sont allées au bout. Est-ce que la vocation est par définition inébranlable ?
Pour paraphraser ce que vous disiez tout à l'heure, la vocation peut connaître des crises de foi, FOI, ça peut arriver. Quand c'est le cas, c'est plutôt des événements extérieurs qui vont venir remettre en question cette vocation. Ça peut être un accident physique, un deuil, un événement extérieur qui va faire reconsidérer le sens de l'existence et les priorités. Mmh. Un burn-out également, on en voit de plus en plus aujourd'hui. S'il n'y a pas d'événement extérieur, il n'y a pas vraiment de raison pour que la vocation soit remise en cause. La difficulté pour les personnes, en tous les cas, la difficulté que je remarque le plus pour les personnes qui veulent vraiment faire de leur activité professionnelle une vocation, c'est celle de concilier l'aspect financier et le travail en lui-même.
Mmh. Alors, Cyprien, vous écoutez Marjorie Lombard. Qu'est-ce qui aurait pu venir, à votre avis, bousculer cette vocation ?
Qui aurait pu ou qui est déjà venu, mais il y a plein de choses. Je suis assez d'accord avec elle. Je crois qu'un deuil, c'est toujours quelque chose de difficile.
Oui.
Une incompréhension par rapport, dans mon cas précis, par rapport à la vocation religieuse. C'est des aspects négatifs, mais il y a aussi quelque chose qui peut être tout à fait positif, c'est de tomber amoureux. On n'y échappe pas forcément quand on est religieux. C'est des choses qu'il faut accepter, et pour moi c'est pas forcément un mal, c'est-à-dire que derrière on peut tout à fait se relever, et au contraire derrière c'est une force, hein, il me semble vraiment, si cette crise, cette crise de foi comme vous avez dit tous les deux, on arrive à la traverser, derrière on est encore plus sûr de notre vocation.
En tout cas, aller au bout de cette vocation, Yann, aujourd'hui, cette vocation, cette passion, vous en faites votre métier. Donc voilà, est-ce qu'on a vraiment l'impression de faire son métier, de faire un métier lorsque on a fait de sa vocation, de sa passion, son métier,
hein? C'est une bonne question. C'est vrai que des fois on se dit c'est tellement un plaisir que on oublie que c'est un métier. Après il y a toujours des choses, on va dire, à côté, qui tous les côtés administratifs, tous les côtés justement qui sont pas forcément liés à la musique, qui vont me rappeler que c'est un métier justement.
Ouais.
Parce que gérer une école, il y a plein d'à côté, quoi.
Et il est vrai aussi que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de paperasse, comme vous dit Fred. Donc peut-être que c'est le seul aspect qui vous rappelle que voilà, aujourd'hui vous avez créé une école et que vous devez sûrement suivre pas mal de règles. En tout cas, mille merci à vous Fred, merci à Cyprien, merci à Jessica et merci à Yann de nous avoir fait partager leur histoire, leur témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci à vous Marjorie Lombard pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Dessine-toi une carrière aux éditions Deneau. Donner du sens à son travail permet souvent d'être plus heureux. La vocation est une sorte de foi, de quête intérieure. Marjorie Lombard faisait justement l'étymologie de l'appel de l'intérieur. Cette quête intérieure qui guide ceux qui sont animés par elle, cette vocation reste viscérale pour beaucoup d'entre nous. Il semble important d'aller au bout de ses envies, de ses rêves et de tout tenter. Mais si la vocation porte, elle peut aussi parfois enfermer, restreindre le champ des possibles. Ce qui compte, bien évidemment, c'est de trouver ou de retrouver sa voie, pour reprendre l'ouvrage de Marjorie Lombard, dans lequel vous pourrez trouver beaucoup d'éclairage concernant cette vocation. Et puis vous pouvez continuer bien sûr à partager sur les réseaux sociaux.
Et d'échanger entre vous, de poursuivre cette discussion via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et Instagram. Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons du diabète en France. Cette maladie touche près de 3 millions de personnes. Alors comment vivre avec le diabète? Ce sera notre sujet de demain. Si vous êtes diabétique depuis longtemps, si l'un de vos enfants est diabétique, si vous avez fait de votre diabète une véritable force, appelez-nous dès maintenant au 3921 pour nous parler de votre histoire. J'ai été ravi de passer cette heure à vos côtés, ainsi qu'à vos côtés, ma chère Ambline.
Également.